des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil au micro, une fois encore pour vous présenter l'émission « Des livres plein les oreilles ». Il y a des livres, mes amis, qui nous détendent, il y en a d'autres qui nous instruisent, et puis il y en a d'autres qui nous font un bien immense. Oh, ils peuvent nous faire un peu de peine, mais en bout de ligne, comme on dit, ils nous font un bien immense. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Lise Thouin, auteure, comédienne, épouse, mère et surtout passeuse d'âme. Nous nous entretiendrons autour du livre « De l'autre côté des choses » qui vient d'être enregistré par Lise Thouin elle-même chez Vues et Voix et qui est disponible dès maintenant en version commerciale ou en version adaptée. Également à l'émission, et pour vous prouver que j'ai de la suite dans les idées, je vais recevoir Alain Brunet, l'auteur de « La misère des niches », un essai, un constat sur la faillite de la production musicale depuis la venue de ces robinets musicaux qui remplacent de plus en plus nos discothèques personnelles en appauvrissant la majorité des artistes et en créant de scandaleux millionnaires. Alors oui, je vous en ai déjà parlé de ce livre, mais j'avais tant de questions à poser à Alain Brunet que je l'ai invité encore une fois, j'ai insisté, et il a accepté de venir jusqu'à nous. Et puis en seconde partie, on va aussi retrouver la chroniqueuse de Toronto et de Caeb, Lindsay Tyler. Voilà pour le programme du jour à cette émission des livres plein les oreilles, qui, rappelons-le, est bien la seule à vous informer des nouvelles parutions dans le monde des livres qui s'écoutent. Alors, avant d'accueillir Lise Thouin, cette chanson.
Tendre compagne des petits déjeuners, je t'appelle, tu m'entends, je ne t'ai jamais, jamais, jamais.
Michel Jonas, je suis là. On a rarement l'occasion d'entendre ce genre de chansons à la radio et comptez sur moi pour vous en faire entendre d'autres et d'autres encore. Si on ouvrait mon cœur ce matin, il en tomberait des enfants. C'est une des très belles phrases qu'on peut lire dans le livre de Listoin, De l'autre côté des choses. Bonjour Listoin.
Bonjour Clotilde.
Cette phrase, moi, m'a totalement renversée, bouleversée. Je vous la relis, hein, pour les auditeurs, parce que vous, Lise, vous la connaissez bien. Si on ouvrait mon cœur ce matin, il en tomberait des enfants. Lise, comédienne, hein, bien sûr, il y a des gens qui se souviennent de vous très, très bien et vous êtes quelqu'un qui nous avait manqué à un moment donné, beaucoup, qui nous manquait encore à l'écran. Mais évidemment, ce n'est pas sur votre métier de comédienne qu'on va revenir aujourd'hui, mais sur cette vie de bénévolat que vous avez eue, que vous avez offert à tant d'enfants, à des moments cruciaux de leur vie, au moment du grand voyage, au moment du grand passage. Vous en avez vu partir, je ne sais pas combien, beaucoup.
Beaucoup.
Et par chance, vous avez eu la très bonne idée de consigner tout cela par écrit sur des petits cahiers. D'ailleurs, à un moment donné, vous vous demandez, hein, dans ce livre, dans un des cahiers, mais comment ça se fait que j'ai eu besoin de consigner tout ça sur des cahiers? Est-ce que vous avez la réponse?
En fait, on oublie énormément si on n'écrit pas. De ce temps-ci, je n'écris pas. Et je me dis que cette vie-là, pour tout ce que je suis en train de vivre, n'existera plus. Mais je suis très contente d'avoir fait ce travail, qui pour moi n'était pas un travail, c'était simplement j'avais besoin d'écrire, sur ces années de 1985 à 1995, qui ont été des années très marquantes pour moi.
Mmh. Plus maintenant du tout? Vous n'êtes plus du tout en contact avec des enfants malades ou
avec
non?
Des enfants, ce n'est pas arrivé vraiment souvent après, mais avec des adultes en fin de vie, bien sûr, la vie nous met, moi et tout le monde, continuellement en contact avec des gens qui s'apprêtent à partir.
Je voudrais qu'on revienne à l'origine. Vous avez appelé votre livre « De l'autre côté des choses » parce que l'autre côté des choses, à un moment donné, vous l'avez connu, vous avez vécu cela et vous êtes revenu.
Eh oui, ça a été un moment charnière dans ma vie, une expérience fulgurante. En fait, si on veut faire l'historique, c'est qu'en 85, je suis allée en Europe avec mon mari et mes deux enfants, qui étaient jeunes à l'époque. Et on a fait un beau voyage en France et en Italie. Quand je suis revenue quelques jours plus tard, j'ai commencé à être très malade. On ne savait pas ce que j'avais. On m'a rentrée d'urgence à l'hôpital. J'y suis restée 2 mois et demi avec une virémie épouvantable causée par un virus qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, un Coxsackie B5. Ce virus a passé systématiquement et d'un à l'autre et à chacun des organes de mon corps. Et j'ai fait une méningite, encéphalite, myocardite, péricardite, hépatite, tout ce qui se décline en it.
Vous étiez condamnée. Les médecins n'y croyaient pas.
Oui, quand je revenais un petit peu mieux d'une infection, une autre recommençait. Et ce qui est arrivé le 24 juillet 85, vers 11 heures du soir, j'ai fait ce qu'on appelle une mort clinique. Quand je me suis réveillée, quand je suis revenue dans
votre corps,
il y avait plein de monde autour de moi qui disaient « Oui, c'est correct, ça va, des piqûres et tout. » Et j'ai très bien su à ce moment-là que d'une façon évidente et sans que j'aie jamais entendu parler avant de cette réalité-là qui est la mort clinique, mais je savais que j'étais morte et que j'étais revenue. Et je peux dire que c'est une expérience fulgurante parce qu'il y a un avant et il y a un après.
Et vous, cet après, vous avez donc décidé en quelque part de partager ce moment-là qui est quand même douloureux.
Ben, d'abord, la maladie était très douloureuse.
Oui, mais ce moment-là, lorsqu'on revient...
Ça a été... je ne pense pas qu'on puisse avoir une douleur plus forte que celle que j'ai eue à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais été désintégrée.
Ah, oui.
C'est la douleur de l'accouchement multipliée par 1000. Et bon, je suis revenue dans ce corps-là. Évidemment, pendant 2 autres mois, je me suis battue pour rester en vie. Et quand je suis sortie de l'hôpital, ben, c'était comme une nouvelle vie.
Et vous êtes devenue passeuse d'âme. Vous écrivez ici « Découvrir à chaque fois cette ultime parenté d'amour que j'ai avec ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Est-ce cela maintenant mon rôle dans ce monde ?» La réponse est « Oui ».
Et c'est oui, et c'est toujours comme ça. C'est drôle que vous me parliez de cette phrase-là, parce que c'est vrai que c'est toujours comme ça. Quand je suis avec des gens qui sont très souffrants, physiquement, sur le point de s'envoler, j'ai toujours cet amour fou qui
Et cette compassion, cette...
Ouais, c'est ma famille.
C'est votre famille.
Je comprends.
Mais là, dans ce livre-là, on ne parle généralement que d'enfants. Et là, il me semble entendre les auditeurs en ce moment-là qui nous écoutent et qui se disent « Mais mon Dieu, accompagner des enfants dans la mort, comment a-t-elle fait? Moi, je ne serais pas capable, etc. » Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là?
Ben, je leur dirais que moi, avant que cette mort clinique soit arrivée, cet événement bouleversant de ma vie, moi non plus, j'aurais jamais été capable. Alors, je les comprends très bien. Mm-hmm. Quand j'allais à l'hôpital avec mes enfants, à Sainte-Justine, par exemple, puis que je voyais un petit enfant pas de cheveux, ben, je changeais d'ascenseur pour pas être avec eux, comme si la mort allait s'attraper. J'avais une sainte horreur des tombes, des cercueils, des funérailles. Mm-hmm. Et tranquillement, ben, évidemment, ça se fait pas immédiatement. Mais tranquillement, la vie a fait en sorte que j'ai de m'envoyer auprès de ces enfants-là.
Et ces enfants-là, un jour, il y a quelqu'un qui vous a dit, mais comment ça se fait que vous êtes autant attachée à eux? Et vous avez dit, mais non, je ne suis pas attachée à eux, je les aime.
Je les aime. Oui, ouais, ça c'est bien différent parce que faire de l'accompagnement, c'est vivre avec quelqu'un qui s'apprête à partir et bien sûr avec leurs parents. Le moment présent. C'est d'apporter la vie au moment présent. On n'a pas passé avec eux, ces enfants-là, on ne les connaît pas, on ne les connaissait pas, j'avais pas de lien de parenté, et on n'a pas d'avenir, parce que si l'enfant guérit, bien sûr, il va sortir de l'hôpital, je vais peut-être recevoir un petit mot, une petite lettre, une photo, mais c'est tout. Ils vont retrouver leur vie, et tant mieux. Je n'ai que ce moment-là avec eux qui peut s'ouvrir comme un éventail et rendre le moment le plus magique possible, le plus beau. Autant pour les enfants, parce que autant pour les parents, parce que les parents vivent cette aventure-là de façon épouvantable, et on sait que, surtout quand il y a mort d'enfant, les parents, les proches, ils sont plus capables. Ils sont plus capables de supporter l'odeur de la mort autour d'un enfant. Donc, les parents ou le père ou la mère se retrouvent souvent seuls. Donc, c'est une aventure qu'on vit en intimité jusqu'à la fin.
Listoin, évidemment, j'aurais pu choisir un paragraphe à quasiment chaque page de votre livre, tant il est touchant. J'ai choisi, je voudrais que vous nous lisiez ici en direct, « Mélissa, mon amour », qui est une poésie. Et vous m'avez dit « Ah oui, je veux bien, mais je voudrais que ce soit sur la musique qu'on pourra d'ailleurs retrouver sur le livre audio, qui est « La pavane pour une infante défunte » de Maurice Ravel. C'est peut-être pas la même version, je ne sais pas, mais c'est une très belle version aussi, au piano.
Où sommes-nous, Mélissa, ma petite? Il n'y a plus ni jour ni nuit. Juste un long espace gris, toujours pareil, entre les murs de la chambre. Je n'en peux plus d'écouter ton silence, Mélissa. Il est plus menaçant que des cris. Derrière la porte fermée, il y a le bruit des autres. Des pas pressés, des voix, un rire, un klaxon au loin. Tiens, un robinet qui s'ouvre. C'est un autre monde là-bas, Mélissa. Ils nous ont oubliés, je crois. C'est un mauvais rêve. Dis-moi que je me réveille tout à l'heure, Mélissa. Mélissa, mon amour, crucifiée sur ton lit à ce poteau d'argent. Le poison jaune s'écoule goutte à goutte dans ton petit corps brisé. Il n'y a plus de ciel, Mélissa. Seulement cette grande étoile mauve éclatée dans le creux de ton bras. Une odeur d'acide flotte dans l'air trop chaud, mêlée à celle de la soupe qui fige dans le plateau du dîner. Tu sentais si bon, Mélissa, mon amour, les jours de soleil. Tu courais vers moi les bras tendus et je recevais ta vie en plein cœur. Et cette odeur qui est à toi, un parfum de fleurs et de vanille mêlé. Où sont-elles tes boucles dorées, glissantes comme des rivières de satin, et que j'enroulais sur mes doigts? Je ne te reconnais plus, Mélissa trop blanche, Mélissa dévastée. Sur ta tête nue, des lignes rouges dessinent les frontières d'un jardin clos. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mélissa, mon trésor? Et pourquoi tournes-tu la tête vers moi avec ce sourire de vieillard? Où sommes-nous, Mélissa, ma trop maigre? J'ai si peur maintenant. Regarde, le jour se lève, le ciel a blanchi à travers les rideaux. Je mets ma main dans ton cou. C'est une histoire d'amour entre nous, Mélissa. Une histoire de commencement du monde. J'ai mal à ta tête, à ta bouche, à ton ventre. Je sens ta vie qui palpite sous la douceur de ta peau. C'est comme un papillon, Mélissa, ma guerrière. Un grand papillon blanc sur la mer.
Ravel, et puis cette voix magnifique, Listouin, et ce poème. Honnêtement, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu à cette émission depuis des années.
Merci.
Mais merci à vous. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle de boules de rêve. Oui. Comme beaucoup de choses dans votre vie, ça n'a pas été facile. Combien de fois avez-vous eu des projets qui ont failli avorter? Ils vous ont fait attendre, ils vous ont freiné, ils vous ont... Mais finalement, vous êtes allé... À un moment donné, vous avez lâché prise. Cette histoire que vous avez inventée de ce dauphin
à qui il pousse
des ailes et donc il quitte la mer au moment de son décès au moment du grand voyage pour partir dans
Et qui retourne chez lui, c'est ça.
La planète de cristal. Oui. Hein, c'est bien ça. Je voudrais dire que au-delà du livre de l'autre côté des choses, on peut encore se procurer Boule de rêve.
Oui, c'est quand, et il sera, je crois, vendu en bouquet de l'autre côté des choses avec Boule de rêve si on le veut. Puis je suis contente, Clotilde, parce que c'est la première fois que je parle de mon livre en livre audio.
Oui.
Il vient d'être terminé.
Voilà. Oui. Et on va l'entendre pour vous rassurer. Vous savez, toutes les plateformes qui vendent des livres audio, alors on les appelle Apple Books, on les appelle Visez-Voix, évidemment, ouais. livresonore.visez-voix.com, livre audio, pardon. On a aussi, bon, évidemment, Audiolib, toutes ces, donc, partout sur la planète, quelqu'un va pouvoir se procurer Boule de rêve, et il sera également en format accessible, donc gratuit, via le SQLA pour les personnes malvoyantes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde va avoir accès à ça. Vous avez souvent nagé avec les dauphins en milieu naturel.
Oui.
Je précise,
pas
évidemment.
Dans une cuve en métal.
Et lorsque ce livre finit, il y a un garçon qui vous met sur une aire d'aller et qui vous parle de l'Australie et vous dit « Ah, peut-être que... »
Oui, parce
qu'on m'a... Est-ce que vous l'avez fait?
Non, je ne suis jamais allée en Australie. J'ai fait... lors de l'enregistrement de l'autre côté des choses, j'ai fait une espèce de petit ajout où je dis peut-être qu'un jour j'irai en Australie. Bon. Il me reste encore du temps à ma vie pour faire ce grand voyage. Et Boule de rêve, ben, c'est ça, je voulais seulement vous dire que c'est une histoire magique qui a été inventée pour une petite fille qui allait partir et qui avait peur. Et cette histoire-là m'est venue toute seule.
Geneviève. Hein?
Geneviève.
Et la chanson thème, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, c'est la chanson magique.
Oui.
Je voudrais qu'on l'écoute, Listoin. Merci tellement pour ce livre, pour Boule de rêve, pour les enfants que vous avez accompagnés, pour les adultes que vous continuez d'accompagner. Merci infiniment pour ce que vous êtes, Listoin.
Merci, Clotilde.
Il lui sembla alors que des milliers de voix s'étaient jointes à la sienne. Des milliers de nouveaux amis chantant la même chanson. Mais pourtant, de mille façons différentes, avec mille nuances nouvelles. Et c'était encore plus merveilleux que tout ce qu'il avait pu imaginer. Je plonge dans le soleil levant, je touche au ciel et j'ai mille ans. Je renais à chaque seconde dans le premier matin du monde. Et comme on Comme on risque sa vie. J'entends. des ailes, je vais pouvoir aller plus loin. Derrière la dernière colline,
aller plus loin, aller plus loin.
Parfois je bascule ébloui dans ce désir qui s'agrandit. Parce que je veux voler plus haut, je risque d'être un oiseau.
La chanson magique, je suis obligée de fêter dans ces voix d'anges du chœur, les petits chanteurs du Mont-Royal, pour vous rappeler que j'ai reçu Listoin, que son livre existe maintenant en audio de l'autre côté des choses et qu'il existe aussi Boule de rêve en audio, en CD, que vous pouvez trouver chez vos marchands. Sinon, pour le livre audio, ce sont sur les plateformes. Des livres plein les oreilles, la suite. Les artistes, du moins la majorité d'entre eux, n'ont jamais été parmi les plus riches. Ce n'est pas nouveau. Mais depuis l'arrivée de ce que moi j'appelle toujours et uniquement les robinets musicaux, c'est pire encore. Et c'est ce que dénonce Alain Brunet dans son essai « La misère des niches ». Avant de m'entretenir avec lui, je vous propose une chanson, mais aussi un sketch. Et surtout un fantastique souvenir en ce qui me concerne. Alain Brunet, qui est déjà en studio, je ne sais pas s'il connaît. On retrouve Coluche.
De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce qu'il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et qu'il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche, hein. Là, dans la gueule. Ils vont en prendre plein la gueule, ils s'en rendent pas compte. Tirer là-dedans, il fait chaud. De Jean-Louis Chotard, Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou, Marie Groupière. Misère. Je vous le dis tout de suite, ma chanson ne passe pas à la radio, hein. Vous la verrez pas à la télévision non plus, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire, hein. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision, hein. Et alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent passer à la télévision, hein. C'est parce qu'elles ont rien à dire. Là, voyons, je leur mets dans la gueule. Hein. Chante des conneries. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Hein. Alors tout ça, la chanson est une industrie parce qu'une poignée d'imbéciles a réussi à être moins con que le reste. Il y a de quoi se vanter, je vous jure. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Tout ça pour faire du fric et du fric. Voilà. Et pour manger du caviar à la louche. Parce qu'il faut être snob, hein, entre nous. C'est pas meilleur à la louche. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, misère, Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? De toute façon, ça va pas durer, hein. Ça va être interdit, la vente forcée, là, comme ils font, là. Parce que si on vous passe des conneries toute la journée, vous finissez par les acheter, hein. Vous n'êtes pas raisonnable non plus. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. Mais tu vois, hey, de toute façon, ça va changer le métier, parce qu'il n'y a pas que dans la chanson que c'est comme ça. Le cinéma, c'est pareil. Moi, j'ai un copain, il fait un court-métrage sur les chiens d'aveugles. Eh ben, les producteurs en voulaient pas, soupçonnaient que les aveugles vont pas au cinéma. Merde! Alors, il était très bien son film, hein? Moi je l'ai vu, ça m'intéresse pas, moi je suis ni chien ni aveugle, mais quand même, il était très bien. Alors si maintenant les gens ne s'intéressent plus aux choses qui intéressent pas les gens, vous voyez ce que ça les intéresse pas, où on va? Alors quelle misère! Misère de Jean-Louis Chotard, alors, Jean-Jean. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris, des pourris. L'argent ne fais pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère, peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère, devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère, tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en.
Et voilà.
Et voilà.
Bonjour Alain Brunet.
Bonjour.
Vous attendiez à Misère, Misère de Coluche?
Oui, ça fait longtemps, mais c'est toujours bon.
Mais c'est toujours bon, puis c'est, ça peut pas être plus d'appropriation. Que
par... ça fait un peu l'assurance tourique, son... mais en même temps,
oui.
Y a beaucoup de choses aussi qui se passent, qui ont, c'est, on est loin, on peut s'éloigner de la caricature. Et,
oui, oui, bien
et,
sûr.
Et se retrouver devant une foule de contenus de grande qualité qui, enfin, qui ne font pas leurs frais.
Mm-hmm. Alain Brunet. En l'espace, bon, d'abord, vous êtes là parce que vous avez signé un essai que vous êtes venu lire pour Vues et Voix. Il existe maintenant en livre audio, ça s'appelle La misère des niches. Misère des niches ou
oui,
La misère?
La misère des
la
niches.
La misère des niches. En l'espace de 70 ans, je me faisais la remarque.
100 ans même, depuis les débuts de l'enregistrement et du showbiz.
Bon, moi, je me suis dit 70 ans. Bon, on est passé des 78 tours. C'est vrai que j'aurais pu aller encore
ben, au début
plus
de l'enregistrement,
avant.
C'est... Enfin, l'industrie de l'enregistrement a commencé dans les années 20. Bon. À peu près. Bon.
Et puis, je me disais, en passant par les cassettes, à l'époque glorieuse des Beatles, par exemple, où moi, la première, je copiais ça allègrement, je me rappelle, et je mettais un petit micro devant ma radio à chaque fois qu'il y avait une chanson qui passait pour pouvoir la réécouter, jusqu'à aujourd'hui, l'ère, entre autres, Spotify, donc à l'ère de Beyoncé et autres Katy Perry. Et là, je me dis, en 100 ans seulement, mais qu'est-ce qui s'est passé, Alain Brunet?
Écoutez, si j'osais faire un résumé des 100 ans, mais disons que depuis l'environnement numérique, c'était déjà pas terrible avant. C'est-à-dire que du début à maintenant, les artistes n'ont jamais été, ont toujours été les parents pauvres de la chaîne de la création, alors que la chaîne de création existe pour ce qu'ils créent. Alors donc, tous les intermédiaires se sont plus enrichis que ceux qui sont à l'origine du produit, c'est-à-dire non seulement du produit, mais de la création. Et ça s'est empiré au lieu de s'améliorer avec l'arrivée de l'environnement numérique, c'est-à-dire depuis le début des années 90 et surtout depuis la fin ou le début de l'actuel millénaire, ça s'est considérablement empiré. Donc, la condition des créateurs de contenus musicaux de qualité est vraiment exécrable en ce moment, si on la compare même à ce qui se passait dans les années 70 et 80. Mmh, mmh.
Les grandes années, justement, tantôt, hein, je diffusais une bonne vieille toune de Michel Jonas. Il me semble qu'il y avait de la créativité.
Ah, il y en a encore plus.
Il y en a encore maintenant.
Ah, non seulement il y en a encore, il y en a encore plus. Moi, je pense qu'il y a plus de bonne musique en ce moment qu'il y en avait dans les années 70 et 80. En proportion, il y a une quantité phénoménale de grands musiciens et de créateurs.
Mais on ne les entend pas.
On peut les entendre, mais ils sont quelque part dans la botte de foin.
Oui, c'est ça. Vous écrivez « Quand admettra-t-on qu'une répartition équitable des contenus ne peut résulter que de règles contraignantes, c'est-à-dire abonnement mensuel, injection obligatoire de fonds destinés aux créateurs à partir de la gigantesque cagnotte des fournisseurs d'accès et de services, sans compter celle des fabricants d'infrastructures, des réseaux, des logiciels, des outils de lecture, d'enregistrement et de communication. Et résister à cette analyse, écrivez-vous, Alain Brunet, relève de l'acharnement inutile, voire d'un dogmatisme capitaliste entêté et stérile. » Ça, c'est ce que vous dites.
Oui.
Maintenant, ma question à moi, c'est depuis quand, de toute manière, a-t-on déjà vu des grandes fortunes partager qu'elles ont?
Ça s'est passé lorsqu'il y a eu des lois contraignantes.
Ah,
bien
oui.
Sûr. Il y a aussi toute une panoplie d'arrangements que les artistes pouvaient faire, soit avec des étiquettes indépendantes dans les années 70, 80, 90... qui était plus avantageuse que celle qu'on pouvait conclure avec les majors. C'est-à-dire, on pense aujourd'hui à Sony Music, Warner Music et Universal
bien sûr.
Les trois. Mm-hmm. Les trois qui restent. Il y en avait six dans les années 90, maintenant il y en a trois.
Qu'est-ce que vous appelez le phénomène de la longue traîne?
La longue traîne, c'est un phénomène qui a été... Enfin, c'est une métaphore qui a été mise de l'avant par Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef du magazine californien Wired. Et donc, c'était la métaphore suivante, c'est-à-dire que nous avons devant nous une bête. Et la bête a une très, très longue queue et son corps, son thorax, enfin, la partie principale du corps est de plus en plus petite avec les mutations nouvelles, alors que la queue ne fait qu'augmenter. Mm-hmm. Et donc, ce qui représente la queue dans cette métaphore-là, la longue traîne, c'est l'addition de toutes les niches, donc de tous les produits qui s'adressent à des publics spécialisés. Donc, les dizaines de variétés de hip-hop, les dizaines de variétés de rock, de musique électronique, de musique classique contemporaine, etc., etc., et de chansons, et de musique du monde. Alors, donc, toutes ces niches, si vous en faites l'addition, c'est vous avez un constat nettement plus... une somme et une masse beaucoup plus considérable que les blockbusters. C'est-à-dire qu'on pense à Beyoncé, Jay-Z, Kendrick... Kendrick Lamar est une exception pour moi parce que même s'il remplit des stades ou des arénas, il est extrêmement créatif. Des exceptions comme Radiohead ou Arcade Fire. Mais à part, une fois que vous avez nommé trois ou quatre artistes, ou encore certains artistes de l'époque classique qui sont devenus des stars à l'époque, comme on pense à Bob Dylan ou à Bruce Springsteen, des gens qui, aujourd'hui, s'ils avaient 20 ans, ne pourraient jamais devenir des rock stars ou des pop stars capables d'investir des stades ou des arénas parce qu'ils seraient confinés à des publics extrêmement spécialisés, nichés, et dont la croissance n'est absolument pas envisageable dans la façon dont l'industrie s'est restructurée.
Je vais me faire l'avocat du diable, au risque de me faire
bouter
hors de ce studio.
Il n'y a aucun problème.
Vous écrivez « À l'évidence, l'industrie de la musique n'arrive plus, aujourd'hui, à traiter équitablement ses créateurs, ses interprètes et leurs équipes. » Moi, je vous pose la question, l'a-t-elle déjà fait?
Elle le faisait pas terriblement, elle le faisait peu, mais Maintenant, c'est encore pire.
Oui.
C'est-à-dire que déjà, un contrat d'artiste chez une major dans les années 80-90, c'était souvent, dans la plupart des cas, une arnaque.
Oui,
et
c'est ça.
Pas nécessairement dans un label indépendant. Il y avait quand même moyen, malgré tout, de tirer son épingle du jeu, mais c'était déjà une condition extrêmement précaire. C'était très, très difficile d'y arriver.
Mm-hmm, absolument.
Aujourd'hui, c'est encore pire.
C'est-à-dire
que les revenus de rétribution de l'enregistrement sont à peu près nuls pour la plupart des artistes.
Okay,
sauf moins de 1% des artistes aujourd'hui dans le monde. Et c'est déjà... Dire que c'est 1% est une proportion conservatrice.
Oui.
Je pense que c'est encore moindre. Donc, une infime proportion d'artistes réalise plus de 80% des bénéfices de la musique enregistrée et aussi de la musique sur scène, sur terre.
Alain Brunet, je me refais l'avocat du diable. Oublions la rétribution qui, de toute façon, était infinitésimale, pour ne pas dire inexistante, souvent, chez la plupart des créateurs. Je veux dire, c'était peut-être pas 1%, mais mettons que c'était...
Non, c'était supérieur à ça.
Bon, c'était un peu supérieur, mais...
C'était entre
moi,
5 et 10,
mettons.
Moi, je me
dis, quelqu'un qui débute en ce moment, là, et qui ne serait jamais passé à la radio il y a 30 ans, et qui passerait pas plus à la radio maintenant, est-ce que ces formules de robinets musicaux-là, même s'ils sont noyés dans la masse, est-ce que ce n'est pas, faute de pouvoir gagner de l'argent, déjà un bon moyen de se faire entendre éventuellement?
Oui, c'est un bon moyen promotionnel. Par contre, c'est pas une fois que la dimension promotionnelle est arrivée à ses fins, c'est-à-dire que un artiste qui aurait été refusé à la FM commerciale ou dans les canaux classiques des médias traditionnels est refusé, maintenant, il peut se créer un public plus vaste. Mais même s'il joint 30 ou 40 000 ou 50 000 personnes, les revenus de cette...
seront faméliques, on s'entend. Oui.
Les revenus de ce rayonnement-là sont à peu près nuls. Mmh. Alors, puisqu'ils sont faméliques, forcément, dans quelques années, cet artiste-là va retourner chez lui et il va changer, il va être obligé d'admettre qu'il va être un artiste amateur pour le reste de ses jours.
Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme trois niveaux. Il y a les milliardaires et les millionnaires. Il y a ceux du milieu, je ne sais pas moi. Je pense à toute cette catégorie de chanteurs dont le nom n'est plus à faire et qui s'en sortent encore, mais souvent qui s'en vont faire une tournée juste avec la guitare parce que ça coûte moins cher. Je pense à toute cette catégorie de Michel Rivard et compagnie, par exemple.
Mais eux, c'est sûr.
Bon, mais attendez.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement les gens qui ont émergé avant l'arrivée de l'environnement numérique. Il y en a plusieurs qui sont devenus des, entre guillemets, des classiques de la chanson ou de la pop culture, qui peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire donc gagner bien leur vie parce que leur public est déjà là, leur public sera au rendez-vous, ils ont quand même tout un système pour leur propre portefeuille qui a été établi auparavant et donc ils peuvent encore s'en sortir. Par contre, ceux qui sont nés dans l'environnement numérique, c'est-à-dire déjà maintenant depuis au moins 2 décennies, eux, ils ont beaucoup plus de mal. Bon, il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des groupes au Québec, par exemple, Milk and Bones ou encore Men I Trust, des formations indépendantes qui ont de très, très grosses circulations sur Spotify, qui vont bien gagner leur vie pendant 3 ans. Mais lorsque ça va s'arrêter,
c'est final,
ça sera fini. Ça sera terminé parce qu'il n'y a aucun mécanisme pour les relancer. Alors, à ce moment-là, s'ils cessent d'avoir des circulations astronomiques, ce qui forcément va se produire parce que ce n'est pas des génies nécessairement, ce n'est pas des gens comme, je ne sais pas moi, il y a des Radiohead, mais la plupart des gens qui font de la musique, ils vont avoir des périodes d'inspiration très grandes pendant 2, 3, 4 albums, puis après ça, à un moment donné, comme n'importe quel individu qui ne sont pas des génies, ben, leur créativité va un peu ralentir et ils vont être finalement laissés à eux-mêmes pour être capables de continuer. Et ils pourraient tout à fait continuer avec leur public, etc. Mais leur circulation va considérablement baisser et les revenus de la musique enregistrée vont disparaître comme ils sont apparus.
Vous avez écrit ce livre, et ce sera ma dernière question, mais vous avez écrit ce livre pour qui exactement? Qu'est-ce que vous vouliez changer? Parce qu'est-ce que vous...
Je ne veux rien changer personnellement.
Rien changer.
Moi, je suis un observateur. Ah oui, on peut changer des choses, absolument.
Oui.
Mais moi, je l'ai écrit pour les mélomanes, oui. pour les amateurs de musique, les gens qui soutiennent les contenus culturels, les contenus musicaux de grande qualité, aussi pour les professionnels de la musique et aussi pour les artistes, qu'ils soient conscients du nouvel environnement, quels sont les enjeux, quels sont les défis à relever, parce que c'est tout à fait possible, si les gens mettent leur culotte, de changer cet état de choses, cet état des choses. C'est tout à fait faisable, mais c'est extrêmement difficile, mais c'est faisable.
Alain Brunet, je vous remercie.
Je vous en prie.
Je vous rappelle que l'essai s'appelle « La misère des niches » et il est important, ne serait-ce que pour les artistes, pour qu'ils se sentent moins seuls.
Oui, au moins.
Il y a au moins une personne pour les épauler.
Oh, il y en a plus qu'une. Je pense qu'il va finalement... Un jour, il va y avoir un changement de paradigme.
Et évidemment, c'est un livre qu'on retrouve en audio sur les plateformes, à commencer par la nôtre, livreaudio.vusevoix.com. Et on s'en va en chanson avec une qui n'est pas souvent passée à la radio finalement, mais qui a fait son bout de chemin, même Clémence Desrochers.
On a tous besoin d'une idole. Dans la vie, faut avoir un but. Il y en a qui se font raser la peau. Cherche une terre, ceux de la campagne un bungalow. Ma tante qui rêve d'être millionnaire se ruine en achetant de la loto. Dans la vie, ça prend un drapeau. À vous les cœurs. Pour moi le bonheur c'est le sport, la seule affaire que j'aime à mort. Avec une bière mon salon, voir le sport à télévision. Notre belle jeunesse est énergique et pratique le sport amateur. 100 000 à l'heure en gros bicycle.
Et pour voir les sports à la télévision, eh bien, ça prend des gens qui les commandent, ces sports-là. Et c'est le cas notamment de Chantal Maccabée, dont va nous parler Lindsay Tyler de CAEB. Bonjour, Lindsay.
Bonjour.
Alors, c'est ça. Alors, pour nous amener à Désavantages numériques, la chanson de Clémence Desrochers, moi, c'est le sport. Et pour nous parler de ce livre de Chantal Maccabée.
Oui, bon, moi, je n'aime pas énormément les sports et ayant grandi en Anglais et en Ontario, je ne connaissais pas Madame Maccabée, mais ce livre m'intriguait beaucoup parce que j'ai appris que Chantal Maccabée est une vraie pionnière dans le journalisme sportif. Et elle était sa voix était la première qu'on entendait au réseau des sports. Quand le réseau a lancé en 1989.
Qu'elle
avait seulement 24 ans.
Parce qu'en plus, être une femme dans un milieu d'hommes.
C'est ça. Alors, il y avait très peu d'hommes.
De femmes, vous voulez dire?
Oui, c'est ça. L'homme dans les sports, dans le hockey et dans le journalisme sportif. Elle était si jeune, elle a dû surmonter un certain préjugé et un peu d'intimidation aussi. Mais dans ce livre, elle remercie aussi les gens et surtout les hommes qui l'ont aidé beaucoup à bâtir une carrière remarquable aussi.
Qui l'ont soutenue, hein, parce que justement, je voudrais, on va peut-être écouter un petit extrait où elle parle et où elle dit que finalement, elle a été bien accueillie, même quand elle était jeune. On va écouter l'extrait.
D'accord.
Tous mes nouveaux amis étaient des gars, tous des amateurs de hockey. Il faut dire que j'annonçais clairement mes couleurs les journées où je portais mon chandail du Canadien à l'école. D'ailleurs, si on parlait à mes professeurs de l'époque, ils me décriraient comme une grande fan de sport et du Canadien. C'était souvent le même rituel en revenant de l'école. J'ouvrais la porte, je lançais mon sac à dos dans l'entrée, je prenais mon hockey et j'allais jouer avec les gars sur la patinoire extérieure au parc Chénier, en face de chez moi. D'une certaine façon, c'était une bonne préparation de ce qui allait m'attendre à mes débuts à RDS. J'étais pas mal la seule fille dans un monde de gars. Et comme à RDS, ça ne dérangeait pas les gars qui jouaient sur la patinoire que je sois là. Ou du moins, ils ne me l'ont jamais fait sentir.
Bon, Madame Maccabée, dans la vie, a une voix un petit peu moins aiguë que cette charmante lectrice bénévole, mais peu importe, ça nous donne hein, une bonne idée de notamment l'enfance de cette femme-là. Comment est-ce qu'elle est arrivée à faire du sport? Elle qui a fait beaucoup de musique, hein? Elle a étudié la musique quand elle était jeune, Chantal Maccabée.
Je ne savais pas.
Oui. Elle a étudié la. En fait, elle a commencé par ça, piano, tout ça, accordéon, et puis finalement, à un moment donné, elle a découvert le baseball à la télévision, et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est une véritable passion qui la consumait et qu'elle n'a jamais abandonnée. Il y a un autre livre dont vous vouliez nous parler, Lindsay Tyler aujourd'hui.
Oui, alors maintenant pour quelque chose complètement
différent.
J'aimerais proposer un nouveau livre un nouveau roman par Louise Chevrier. Mm-hmm. Le titre est Une fille de Chicoutimi. Alors Louise Chevrier est journaliste et écrivaine qui se spécialise dans l'histoire du Québec. Et ici, nous avons un roman historique dont l'action se situe au Saguenay au début du 20e siècle. Ce qui est intéressant, pour écrire ce roman, elle s'est inspirée de sa propre famille. Elle est d'origine saguenayenne et en particulier de sa grand-mère maternelle, Alice Laurette Gagnon.
Okay.
Alors, c'est pas une biographie, mais un roman basé sur la vie de sa grand-mère.
La vie de sa grand-mère au Saguenay, au début du 20e siècle. Est-ce que c'est une série ou c'est juste un livre?
Ben, c'est le premier tome d'une série. Et le deuxième tome paraîtra cette année, apparemment.
Alors, ces deux livres, Une fille de Chicoutimi de Louise Chevrier et Des avantages numériques de Chantal Maccabée, se retrouvent en format adapté, donc accessible aux personnes non-voyantes, via le SQLA et via, et ça a été enregistré à l'INCA, à l'INCA. Et c'était Lindsay Tyler de Caeb qui venait, comme elle le fait une fois par mois, pour nous en parler. Merci beaucoup, Lindsay.
Merci, bonne journée.
Mais à vous aussi, puis au plaisir. Et je pense qu'on va peut-être retrouver bientôt Faline, mais ça, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise. Ça veut dire qu'on vous perdrait, vous. On pourrait peut-être arranger quelque chose pour faire genre un coup sur deux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, on peut prendre le relais un peu.
D'accord, Lindsay. En tout cas, ça me ferait très plaisir et aux auditeurs aussi. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Alors voilà, c'est avec Lindsay Tyler que se referme aujourd'hui cette émission des livres plein les oreilles. Merci aux invités, Lise Toin et Alain Brunet. Merci à Mathieu Tessier qui était de l'autre côté de la vitrine. Merci aussi à toutes les plateformes qui relaient les livres qui sont lus ici même chez Vues et Voix ou partout ailleurs dans le monde, dans la francophonie. N'oubliez pas, le livre audio, c'est quelque chose d'important. Et il y a cette émission des livres pleins les oreilles qui, je pense, mérite aussi d'être entendue, écoutée, comme les livres audio qui existent. Passez une belle journée, une belle semaine. À la semaine prochaine. Salut!